du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, il y a des endroits où le respect de la nature n'est pas une option, il s'impose. C'est une évidence au Cap-Vert. Cet archipel, situé à 700 km à l'ouest du Sénégal, en plein océan Atlantique, a été accosté par les grands explorateurs dès la seconde moitié du 15e siècle. Les Portugais Vasco de Gama et Magellan, l'Espagnol Christophe Colomb y ont fait escale. Les Portugais s'y sont installés pour le pire, créer la première plaque tournante du commerce triangulaire. Lieu de rassemblement des esclaves arrachés à la côte ouest africaine dès la fin du 15e siècle, ils seront plus de 4 millions à transiter par Ribeira Grande, la première ville construite par les Européens sous les tropiques sur l'île de Santiago, qui abrite aujourd'hui Praia, la capitale. Depuis son indépendance en 1975, le Cap-Vert et ses 10 archipels ont du mal à retenir une population qui rêve d'Amérique et d'Europe. La diaspora, 700 000 personnes, est d'ailleurs plus nombreuse que les 500 000 Cap-Verdiens restés au pays. Car la vie est rude sur les îles volcaniques, la pêche est bonne mais les courants sont violents, la terre est fertile mais l'eau se fait rare. Fogo est au sud de l'archipel du Cap-Vert, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Praia, la capitale. Elle fait partie des îles sous le vent. D'ailleurs, l'Harmattan, ce vent qui transporte le sable du désert du Sahara vers l'Amérique du Sud, a failli nous empêcher de l'atteindre en brouillant le ciel. Nous atterrissons donc à São Felipe, une petite ville où les façades colorées des sobredos, les anciennes maisons des colons portugais, tranche avec le sable noir de la plage et le bleu profond de l'océan qui frappe violemment le rivage. Mais à Fogo, le maître, c'est le volcan, le Pico des Fogo, qui dicte sa loi depuis des millions d'années.
Il est 6 heures du matin, nous sommes au pied du pic Fogo, ce majestueux volcan de 2900 mètres d'altitude. Nous sommes à 1800 mètres, sous un plafond d'étoiles. Le soleil n'est pas encore levé. Nous allons monter en haut de ce géant, 1100 mètres de dénivelé, un bel effort en perspective. Et nous allons essayer de comprendre comment la population vit ici, dans cette nature qui pourrait sembler hostile, dans ce cratère de 9 km de diamètre. Malgré les éruptions, or depuis 1460, il y en a quand même eu 26, soit 5 fois en moyenne par siècle. Et malgré ces éruptions, la population reste là. Malgré la lave qui coule et qui engloutit les maisons, ils reconstruisent. C'est un environnement hostile et fascinant. Et en même temps, c'est un environnement qui permet la culture, puisque ici, il y a des vignes et il y a du café. Paraît-il l'un des meilleurs cafés du monde.
Je m'appelle João. Je suis guide ici à Calderas, au volcan.
Et vous, vous êtes d'ici?
Ah oui, moi je nais ici, j'habite toujours ici.
Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là alors?
Aujourd'hui, nous allons monter le sommet de Cap Verde, que ça fait 2008. Maintenant, nous va commencer à 1007, nous allons monter jusqu'à 2829 mètres. Oui. C'est le paysage unique, elle est ici. C'est difficile de voir en autre endroit avec le même paysage comme ça. C'est difficile, oui.
Et ce volcan, là, il est tranquille, mais parfois il se réveille.
Oui, peut-être d'ici 20-30 ans, jamais on ne savait combien de temps. C'est tous les 20-30-50 ans.
Mais pas aujourd'hui.
Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tranquille.
Alors, on y va. Okay. Ben ça y est, João, nous sommes arrivés au sommet.
Oui.
Après combien de temps de marche?
On fait 1100 mètres en 3h30, c'est bien.
Et donc là, on est en haut du pic de Fogo, à 2829 mètres d'altitude. Donc à droite, il y a le cratère où on voit le soufre. On voit qu'il y a encore des fumerolles, mais ce cratère-là, donc le plus haut, il n'a pas eu d'éruption depuis longtemps.
Oui. Ne savais pas combien de temps, mais beaucoup de scientifiques parlent que ça fait millions d'années. Il a 200 mètres de profondeur, 500 mètres de large.
On sent un peu l'odeur du soufre, là.
Oui, oui, oui. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui descendent là-dedans pour écrire son prénom avec la roche.
Oui, on voit au fond, il y a des gens qui ont écrit leur prénom. Il y a beaucoup de touristes ici ?
Ici, souvent. J'ai fait 3, 4, 5 fois par semaine. Il y a deux mois que j'ai monté presque tous les jours. C'est à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, je monte presque tous les jours, oui. Je ne fatigue pas, j'aime bien.
Et donc là, on va redescendre ?
Oui.
Donc 2829 mètres et après on descend ?
Jusqu'à 2100 pour arriver sur le petit picot. Nous traversons le cratère de volcan, ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'éruption. Et après, pour voir un paysage de l'autre côté, que c'est magnifique. Et après, nous fait 250 mètres dans la roche. Et après, c'est un petit gravier qui s'appelle Puzolan. Il a donc, tu descends en courant, en roulant, sur le fesse. Beaucoup de gens parlent que c'est comment tu fais dans la neige. Comment tu marches dans la neige. Et j'ai jamais marché dans la neige et je ne sais pas. J'espère un jour pour faire ça.
Oui, il n'y a pas de neige ici. Mais on a même vu des traces de ski sur la Puzolan, sur cette poussière de lave. Il y a des gens qui viennent faire du ski ici.
Ah, souvent nous voir de quelqu'un qui vient faire du ski. Il y a une fois aussi, il y avait quelqu'un qui fait des kayaks, monte de kayak, et en 2009, avec 14 champions du monde, qui vient faire de VTT, descendre le volcan sur le vélo. Et après, on va arriver sur le petit pic, ou de petit pic pour aller jusqu'au village. Ça fait à peu près 40-50 minutes de marche.
Alors le petit picot, c'est de là qu'est sortie la lave lors de la dernière éruption en 2014.
Oui, c'est le même petit cratère qui sort à la lave en 2014, qui sort à la lave aussi en 1995.
Et donc on va pouvoir suivre la lave en redescendant vers le village.
Oui, oui.
Ça y est, nous sommes revenus au village, revenus à la civilisation après 7h30 de marche. On a marché sur les coulées de lave qui sont froides maintenant, évidemment. Vous avez vécu l'éruption de 2014 et vous avez vu tout ce village disparaître ?
Oui, je vois tout le village à détruire. Comme maintenant on passe, ce n'est pas froide. Mais quand même, de temps en temps, tu marches, il y a d'endroits que tu sens la chaleur qui sort.
Et donc le village ici, il a été détruit dans quelle proportion ?
Il y avait à peu près 300 maisons, c'est juste 5 maisons que ça restait. Et les populations sont obligées de partir pour rester en bas. Et 6 mois après l'éruption, les gens commencent à revenir petit à petit pour commencer à habiter ici. Et maintenant, nous sommes à peu près 350 personnes, qui avant, nous étions 1350. Mais je pense que d'ici quelques années, presque tous vont revenir ici pour habiter.
Mais habiter ici, c'est un pari, parce qu'en fait, il peut y avoir une éruption n'importe quand et tout détruire. Vous venez par exemple de construire votre maison. Vous n'avez pas peur qu'il y ait une éruption ?
Comme nous ici en Cap-Vert, on nous dit Cap-Vert no stress, c'est vrai.
No stress, c'est le slogan du pays, donc Cap-Vert no stress, c'est votre philosophie.
Oui, et pour ici, si tu as un travail que tu gagnes un petit peu, même pas beaucoup de l'argent, mais juste si tu gagnes un petit peu, qui suffit pour vivre, c'est tranquille. Mais si tu ne gagnes pas, c'est stressé. Et moi, je préfère rester ici 20-30 ans à travailler tous les jours, attendre une éruption, déjà rester 20-30 ans dans la ville, en bas à Saint-Philippe, à faire rien. Et c'est pour ça que nous venons ici quand même pour habiter.
Merci beaucoup en tout cas pour cette belle randonnée. Et donc je vous laisse parce que là vous avez vos vignes à tailler. Parce qu'ici dans le cratère, il y a des vignes et on fait du vin.
Oui, c'est ça. Maintenant j'ai un peu de travail à faire pour l'instant. Je n'ai pas fini le journée.
Au revoir.
Au revoir.
Juste avant de se quitter, Joao me conseille d'aller rendre visite au plus grand de ses trois frères qui vivent tous dans la caldeira, le cratère. Il a reconstruit une jolie pension à un quart d'heure de marche avec sa femme, Laetitia.
En fait, Alcindo, c'est mon prénom. Mais en fait, le petit nom, parce qu'ici, on a toujours un deuxième nom. C'est mon nom aussi, ça c'est João Pedro de Pina Silva. Mais je suis connu partout au Cap-Vert comme Alcindo, quoi.
Oui, parce qu'ici, c'est la maison d'Alcindo, la casa d'Alcindo. C'est la pension que vous avez créée donc dans le cratère, sous le pic de Fogo, le volcan qui est juste derrière nous. Vous êtes né ici?
Oui, je suis né, grandi et heureusement toute ma vie ici, quoi.
Heureusement, parce que
vivre ici, c'est quand même c'est une chance. C'est pas donné à tout le monde. C'est une chance d'être né dans la caldeira, au pied d'un volcan actif. De temps en temps, ça te fait un petit secousse dans le corps. Ça te fait te réveiller. Bon, c'est.
Mais parce que une secousse dans le corps, parce que quoi? Quand par exemple il y a une éruption, ou c'est quoi les secousses?
Tous les ans, en fait, on a le droit à 2-3 tremblements de terre. On voit deux fois, tu es là, tu es en train de vivre ta vie. Et d'un seul coup, tu te sens un petit tremblement de terre, ça te fait réveiller. Ah, tu es là. Et après, bon, tu recommences, tu oublies.
Mais c'est quand même une nature qui est très exigeante, qui peut être un peu hostile aussi. C'est la nature qui dicte sa loi ici.
Malheureusement, il y a plein de gens qui ne le voient pas comme ça, qui ne respectent pas. Mais par contre, moi, depuis tout petit, j'ai appris qu'on doit le respecter. On doit accepter surtout, par exemple, avec les petits secousses, on doit l'accepter parce que c'est son territoire. C'est nous qui l'avons envoyé. Du coup, il nous donne la chance de vivre dans son territoire. Donc, nous, il nous restera juste à respecter, quoi.
Parce que le volcan, il reprend, on en parlera tout à l'heure, mais il donne beaucoup aussi.
Oui. Mes dernières 10 ans, j'avais beaucoup battu pour pouvoir construire une vie. Parce que je suis d'une famille pauvre. Donc, et je voulais, depuis tout petit, mon objectif, c'était de changer un petit peu le niveau de vie de ma famille. Et surtout de ma mère, qui était traitée un petit peu comme une esclave ici. Je voulais montrer qu'elle n'était pas comme ça. Donc, tout ce que j'ai pu. Là, par exemple, le français maintenant, moi, je n'ai jamais fait des cours de français. Je l'ai appris comme ça en parlant avec les touristes. Et tout ça, c'est grâce au volcan, quoi. C'est pour ça que j'ai pas peur qu'il peut prendre, mais j'ai toujours, pendant l'éruption, pendant qu'il était en train de cracher, de tout détruire, nous, on était là avec mes frères, on regardait, on rigolait. Oui, par moments, on pleurait parce que quand même, ça fait mal. Mais par contre, ça nous a pas. En fait, on n'a jamais été fâchés contre lui, quoi. Parce qu'on sait, on était sûr que tout ce qu'il était en train de se détruire, de prendre, qu'il allait tout nous redonner ça d'une façon mieux, quoi, que celui qu'on avait avant.
Même si vous aviez mis 10 ans à construire la pension dans laquelle vous aviez commencé à accueillir des touristes et qui s'est fait complètement détruire par le volcan. Malgré tout, vous n'étiez pas rancunier.
La pension, c'était une autre étape que j'étais arrivé. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai monté le Pico la première fois, j'avais 6 ans. Mais c'était pas pour le plaisir, c'était pour apprendre comment ramasser. Il y a une espèce de calcite qui se forme avec l'évaporation d'eau dans le volcan. Et à l'époque, ce produit était très réputé au niveau national comme un médicament contre les maladies. Par exemple, la grippe aviaire.
Pour les animaux.
Pour les animaux, oui. Donc c'était les enfants pauvres qui allaient le chercher. À 6 ans, je suis monté pour la première fois avec mon père pour apprendre comment ramasser ces poudres, quoi. Donc, et à 6 ans, je suis descendu, c'était quelque chose que je n'oublie jamais. J'ai descendu avec 11 kilos sur ma tête. Jusqu'ici, j'ai pleuré, c'était dur, c'était lourd. Mais depuis ce jour-là, je commençais à apprendre que le volcan, c'était une ressource qu'on avait pour pouvoir sustenter notre village. Mais qu'il fallait, parce qu'en rentrant là-dedans, sentir la chaleur qui sortait de la terre, sentir l'odeur de soufre et voir les fumarolles. Et tout de suite, j'ai appris à 6 ans qu'on le doit beaucoup de respect, quoi. En fait, c'est comme un monstre qui nous tient sur ses jambes, mais qui nous caresse tout le temps. Mais de temps en temps, il nous montre qu'il a aussi parce que nous, on essaie. Lui nous caresse et nous, on pique. On le pique. Et de temps en temps, il se réveille, il nous alerte, que c'est lui qui nous garde, quoi. On n'est rien du tout. qui s'élevait pour nous, qu'il faut respecter aussi un petit peu, quoi.
Et quand vous dites on le pique, comment vous le piquez, vous, le volcan?
En fait, pour vous dire, avant de reprendre ça, moi et maintenant, quand je suis en dehors de la caldeira, je me sens déprotégé, quoi. Et le volcan, tous les jours, ici, partout où je tourne la tête, je vois le volcan. Même dans mon dos, je sens qu'il est là derrière, quoi. Et quand je sors de la caldeira, je me sens menacé pour quelque chose, quoi. Parce qu'il n'y a pas cette protection derrière. Au derrière, au devant, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque autour de moi.
Et ça, c'est un sentiment qui est partagé par les gens qui sont nés ici, qui vivent ici. Tout le monde a cette sensation-là.
En fait, moi, tout ça, je l'ai appris avec des personnes âgées d'ici du village, parce que depuis tout petit, moi, j'étais très attaché à l'histoire. Parce que comme à l'époque, il n'y avait pas de portable, pas de télévision, il n'y avait rien. Le soir, quand on avait le temps, on se mettait devant chez mes grand-mères, grand-pères, pour qu'ils nous racontaient des histoires. Donc, il y avait tous les jours, dans les histoires, il y avait quelque chose lié au volcan, quoi.
Et puis le volcan, il fertilise la terre ici aussi?
Oui. Par rapport à l'agriculture, la grosse avantage de la terre volcanique, c'est que cette cendre, c'est un peu comme un isolant. Ça garde l'humidité dans le sol. Donc ça suffit de mettre un petit peu de fumier dans le sol, qui après ça pousse, ça produit, ça donne. Ça nous permet de vivre et ça sustente le village, quoi. Et pas que le village, même l'île, on l'a bien vu pendant l'éruption de 2014. Sur la capitale du pays, 18% des produits agricoles qu'on trouve sur le marché de la capitale, ça vient de Fogo, et la grosse partie, ça vient de la caldeira, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut voir aussi que la terre volcanique, la cendre volcanique, et c'est aussi un plus que les gens savent très bien exploiter, quoi.
El tadanachum, un planta novo tan nascer. Oi, acumador da mosca tem vocação. Oi, acumador da amor é moda chuva. El tadanachum, um planta novo tan nascer. Mas vida perguntou pra mim. Enrolada à volta, negar resposta, não tem vergonha, mas vida perguntou pra mim. De amar e viver de dor, de amor.
Mais depuis l'éruption de 2014, il y a beaucoup de familles qui sont parties, qui ne sont pas encore revenues, parce que c'est hostile de vivre ici. Vous vous dites, j'ai beaucoup de respect pour le volcan, mais ça suscite de la crainte aussi.
En fait, y a plein de gens qui ne sont pas revenus pour plusieurs raisons. Déjà, comme vous savez, ici, les familles sont assez nombreuses. Du coup, il y a des enfants qui doivent, comme les études sont obligatoires, ils doivent rester en bas pour s'en occuper des enfants. Donc, après, il faut accepter aussi qu'au niveau économique, ce n'est pas facile. Reconstruire ici dans la caldeira, c'est pas comme les premiers habitants de la caldeira, ils ont fait. Ils ont juste cassé la pierre, monté les murs en pierre, prendre la feuille d'agave, les fleurs des agaves et la feuille d'agave, ils ont fait une petite cabane, un petit funko, ils ont habité dedans. Mais non, il n'y a plus d'agave, il n'y a plus de paille et pour faire le toit. Donc la pierre, elle existe, mais par contre, il faut être là pour travailler, quoi. Pour les gens, c'est difficile, il n'y a pas le moyen financier. Quand on va dans les villages, moi, chaque fois, quand je vais voir ma mère, je descends en ville. Et ça me fait mal au cœur parce que chaque fois, les gens, ils disent « Ah, moi, j'aimerais bien retourner, mais... » J'ai pas de moyens, quoi. J'ai pas de moyens. Et moi, je peux te dire que j'ai beaucoup de chance parce que pendant toutes ces années, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait confiance en moi. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à parler après l'éruption, parce que moi, tout de suite, pendant l'éruption, je suis resté tout le temps ici à défendre pendant que le gouvernement, ils étaient en train d'essayer de créer des lois pour empêcher les gens de demander. Moi, j'étais ici en train de regarder les meilleurs emplacements pour revenir m'installer, quoi.
C'est-à-dire que malgré l'éruption qui venait de détruire ce que vous aviez mis 10 ans à construire, vous disiez, alors que la lave était encore brûlante, où est-ce que je vais pouvoir reconstruire quelque chose? C'était évident qu'il fallait reconstruire là.
Oui, surtout moi, par exemple, là, cet endroit-là où je reconstruis, c'était l'endroit où je rêvais depuis tout petit à avoir ma maison. Donc, chaque fois que je venais, mon regard était déjà ici. Je venais, je le défendais un petit peu quand j'ai vu que la lave est rapprochée. Moi, j'essayais de le dévier un petit peu avec les yeux pour pas qu'il arrive. Parce que moi, je voulais y reconstruire ici. C'est l'endroit où je rêvais, quoi.
Là, c'était un vrai combat face au volcan, là, pour orienter la lave.
Mais par contre, moi, j'étais sûr qu'elle allait pas toucher parce qu'il m'avait déjà pris l'autre qui venait de me donner, quoi. Parce que je l'avais construit, c'était grâce au volcan. Parce que tout ce que je sais faire aujourd'hui, c'est grâce au volcan. Donc,
parce qu'aujourd'hui, vous êtes guide, responsable des guides ici de la Caldeira, et vous avez construit, en fait, votre vie professionnelle sur le tourisme.
Oui, mais comme je vous avais dit au départ, moi, avant, je montais à 6 ans pour chercher le soufre. À 14 ans, j'étais obligé d'abandonner les études parce que j'avais pas le moyen financier pour continuer les études. Je suis revenu, je commençais à tailler les roches vulcaniques pour faire l'artisanat. À 16, presque 17 ans, je commençais à accompagner les premiers touristes pour monter au volcan pour faire guide. Donc après, j'ai eu l'occasion quand même, grâce au volcan, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens qui ont vu que j'avais quand même le potentiel d'accompagner des groupes parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes français qui venaient accompagner des touristes ici. Donc après, il y avait même des jeunes français qui ont commencé à comprendre que c'était plutôt mieux d'avoir des guides locaux, des guides sur place, au lieu d'envoyer un jeune qui vienne. Ils m'ont proposé de faire ce travail dans lequel pendant 10 ans, je me déplaçais dans toutes les îles. Mais chaque fois, en fait, au moins 2 fois par mois, j'ai monté je venais, je passais ici avec mon groupe, je montais au volcan. Donc après, j'ai commencé à voir qu'il fallait voir plus loin. Le travail de guide, c'est ma passion, mais il fallait quand même parce que ça m'aide à vivre. Mais par contre, il y avait mes frères, ma mère, mes voisins qui avaient envie d'un petit plus pour pouvoir vivre. Donc je pensais à créer quelque chambre à la maison pour que je puisse donner le travail à ma sœur et mes frères. Et après, petit à petit, là, malheureusement, pendant 10 ans, je suis battu. Après, j'ai tout perdu. Et tout de suite, je voyais que moi, je pouvais très bien m'en sortir seul. Mais par contre, je ne pouvais pas laisser ma famille comme ça. Donc, il y avait plein de gens dans le village qui avaient beaucoup de confiance en moi. Et qui, chaque fois que je voyais les gens, mais alors, Racino, et tu vas reconstruire, mais... Moi, je suis pauvre, je suis d'une famille pauvre, je n'avais pas le moyen, quoi. Mais tout de suite, quand je commençais à voir que les gens, ils ont commencé à avoir trop confiance en moi, je me disais, oui, il ne faut pas laisser tomber, il faut recommencer. Il faut trouver le moyen de recommencer, quoi.
Mais le moyen, c'est de l'argent. Comment vous avez trouvé l'argent?
À l'époque, j'étais déçu parce que j'étais responsable d'une agence ici, avec laquelle j'ai travaillé pendant 13 ans, parce que j'étais accompagnateur ici avant. Après 10 ans, je faisais le tour des îles. Le dernier 4 ans, j'étais responsable ici au Cap-Vert. Donc, quand je leur avais parlé de mon projet, ils m'ont dit qu'ils allaient me financer. Donc, après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont laissé tomber. Et heureusement, je connais plein de gens qui ont beaucoup de confiance en moi, parce que moi, je suis capverdien, natif d'ici, au pied de volcan, mais j'ai plein de frères et sœurs en France que j'ai rencontrés par mon métier, quoi. Des gens avec qui j'ai beaucoup de confiance, on se parle pas tous les jours, mais tous les jours, je sais qu'ils pensent en moi et que moi aussi, je pense à eux. Et après, quand je leur ai parlé de mon projet, ils ont trouvé que c'était... Il n'y a aucun de mes amis qui ont dit non, c'est le volcan, tu risques de le perdre. Non, si tu veux le faire, on va te financer, bien sûr. Petit à petit, tu vas nous rembourser. Donc voilà, il y avait plusieurs personnes qui m'ont envoyé des petites sommes. Après, j'ai eu la chance d'avoir quelques anciens clients qui m'ont aidé un petit peu financièrement aussi. Et aujourd'hui, on est là, quoi.
Et aujourd'hui, elle est comment la vie?
Écoute, moi, je ne vois pas la vie difficile. Moi, tout ce que je dis, c'est que nous, comme hommes, on doit être responsables de nous-mêmes, quoi. Il faut se battre tous les jours. Parce que, pourquoi je dis ça? Quand j'avais 17-18 ans, mon rêve, c'était de partir aux États-Unis, comme tous les Capverdiens font. Partir aux États-Unis ou partir en Europe pour gagner l'argent, pour pouvoir surtout aider ma mère, quoi. Donc, en parlant avec les touristes, surtout avec des amis, mes amis que je connais depuis tout jeune, qui m'ont commencé à expliquer que le paradis sur Terre, ça n'existe pas. Que partout où tu es au paradis. Que ton paradis, c'est toi qui dois le créer, quoi. Donc, il faut être courageux. Il faut surtout que tu aies la confiance en toi-même. Et il ne faut jamais aussi être jaloux des autres. Il faut toujours apprendre avec les autres. Donc, c'est pour ça que par moments, je me sens fatigué, mais je baisse vraiment jamais les bras, quoi. Là, par exemple, demain, tôt le matin, je vais tailler les vignes, quoi. Je vais tailler les vignes. À chaque fois que je peux faire quelque chose, je sors pour faire, parce que je sais que si on s'arrête pour attendre que ça tombe du ciel, la vie devient difficile. Mais si tous les jours, on agit, on bouge, on fait des choses, elle devient comme l'eau dans une rivière, quoi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir.
Si boca creu ouvi morna, música rainha de nós terra, pra cabo vai bochambi, descabo ver sua vidus, nós terra mãe, inspiração de nós poeta. Princesa de nos serenata, na noite serena de luar, debaixo de janela de crecheu, na choradinha de violão.
Bonjour Laetitia Alfaré de Lorenzo.
Bonjour.
Alors là, nous sommes attablés, on va le dire carrément aux auditeurs, tranquillement, dans le patio de votre pension qui est dans le cratère du Pico des Fogos. Et on boit du cha vino do Fogo, un petit rosé, parce qu'on fabrique du vin ici dans le cratère.
Oui, nous avons d'excellents vins. On produit du blanc, du rouge et du rosé. Ça c'est du vin qui est produit à la cave, mais ensuite il y a le vin local qui est le Manécon. Chaque habitant produit son propre vin, donc c'est un vin qui est un peu plus fort, c'est assez costaud.
Chaque habitant a sa parcelle de vigne alors?
Exactement, oui, chaque habitant a sa parcelle de vigne, oui.
Et alors quand on vous écoute parler, on se dit que vous n'avez pas forcément un accent capverdien très prononcé.
Ben non, je suis française, j'arrive du Lot-et-Garonne, donc...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me suis fait avoir par mon guide il y a 5 ans, 7 ans maintenant.
Vous êtes monté en haut du volcan avec un guide?
Pas du tout, sur une autre île, Alcindo était le guide de mon groupe. J'étais dans un groupe en train de visiter Santo-Antão. Et voilà, coup de foudre à Santo-Antão.
Alors Santo-Antão, c'est donc une autre île du Cap-Vert. On peut tomber amoureuse, mais de là à décider de vivre dans le cratère d'un volcan, c'est particulier.
Complètement, oui. C'est un choix un peu fou. Mais après, je pense que cette rencontre est arrivée à un moment de ma vie où j'étais prête aussi à faire un choix, où j'avais envie peut-être d'être plus en phase avec moi-même, plus en phase avec la nature. Et en plus, avec Alcindo, tout s'offrait. Il y avait, bien sûr, il y avait cette rencontre amoureuse, mais en plus, il était propriétaire d'une pension. Donc, il y avait un projet professionnel qui pouvait aboutir. Parce que, bon, vivre d'amour et d'eau fraîche, ça va un moment.
Et puis, il y a le rapport avec la nature, qui ici est quand même très particulier.
Alors oui, depuis l'éruption, le paysage quand même est assez dur au niveau de l'œil. Pour moi, surtout, j'arrive de la campagne, habituée à des forêts, des espaces verts. Donc c'est assez compliqué au quotidien. En vacances, c'est exotique, c'est sympa. Mais au quotidien, c'est quand même un paysage qui est très, très dur. Et puis, visuellement, on est fermé. Hein, on est dans une caldeira, donc on n'a pas d'horizon.
Donc il y a eu une éruption ici en 2014. Vous étiez arrivé combien de temps avant ?
Quelques mois avant, je suis arrivée en septembre 2014 et le volcan est entré en éruption en novembre 2014. Donc 2 mois après. Voilà, quel accueil. Et vous saviez que ça pouvait prendre ses proportions parce que cette éruption a été particulièrement énorme?
Non, parce qu'en plus déjà, quand on n'a jamais vécu d'éruption, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Hein. Donc je savais, en venant ici, que le volcan était actif, mais après, je pense qu'on fait l'autruche. On sait qu'il peut entrer en éruption à tout moment, mais on espère qu'il ne rentre pas en éruption. Non, là, il est entré en éruption, ça a été très très violent. Nous, c'est des souvenirs très très forts et très très marquants, très violents même, hein, parce que on déménage la maison, il faut sortir en urgence tous les meubles, on est dans un état de chaos, c'est le chaos. Les gens, on voit des voitures qui partent en quatrième vitesse, des camions qui sont chargés parce que il faut optimiser, tout le monde n'a pas de voiture, donc celui qui a un camion, il faut qu'il mette sa maison plus la maison du voisin, il faut aider un peu. Donc on est dans un état d'urgence et c'est le chaos. Donc c'est des images assez dures.
Et pour vous, ça a été particulièrement violent parce que Alcindo avait mis 10 ans à construire sa pension. Et puis, elle a été quoi, détruite en quelques minutes?
Oui, ça a été violent. Je me mettais à la place d'Alcindo, je me disais, mais le pauvre, il vient de tout perdre. Même si j'étais en panique, même si je pouvais pas, j'avais pas le droit de lui montrer ma panique, ma peur, parce que lui, c'était pire. Il venait, c'est sa vie ici. Moi, j'étais à l'époque, enfin, je suis expat, mais j'ai une vie qui peut m'attendre en France. Si jamais je veux repartir, je peux. Lui, c'est toute sa vie qui est détruite. Et je pense que c'est compliqué à comprendre quand on n'a jamais vécu ce moment-là. Hein, quand tous ses souvenirs d'enfance se sont engloutis par la lave, son école, son église, le petit marché, tous les espaces de la caldeira où il allait jouer avec ses copains, où voilà, n'existent plus. Donc ça, c'est dur, hein. C'est dur. Et donc Alcindo, j'ai eu un homme complètement abattu. J'ai dû gérer son accablement, même s'il a très vite rebondi. Mais en attendant, les premières semaines, c'était un homme sans plus d'espoir, sans plus... Enfin, c'est dur parce que moi, j'arrivais ici avec plein d'espoir, justement, et lui n'en avait plus. Oh, je me dis, mais il va me renvoyer en France. En fait, non, ça va, il m'a gardé. Il m'a gardé.
Et donc, malgré tout, malgré ce désespoir immense, il a reconstruit avec vous. Vous avez reconstruit cette pension avec quand même cette conviction que ça valait le coup de le faire.
Oui, très rapidement. Alors lui, il était guide pour une société française, donc très rapidement, il a repris le travail avec ses groupes. Et quelques mois après la fin de l'éruption, il est revenu dans la caldeira avec ses groupes et il a vu que ça commençait à se reconstruire. Alors c'était très précaire au départ, et puis un copain qui a commencé à faire sa maison, il voulait accueillir des touristes. Donc petit à petit, ça lui donnait la force de voir des gens qui recommençaient. Ils ne savaient pas trop où ils allaient, mais ils avaient envie de revenir sur leur terre. Parce qu'il y a aussi ce rapport à la terre qui est très très fort. C'est chez eux, ce sont leurs racines. Le volcan coule dans leur sang. Enfin, c'est vraiment, ils ont le volcan, ils sont imprégnés de la caldeira.
Et aujourd'hui, donc, vous recevez les touristes ici en sachant qu'un jour, la nature pourra à nouveau dicter sa loi.
Oh, pourquoi vous me dites ça? Non, il faut pas me dire ça. Non, on peut avoir... moi, je fais l'autruche. Le volcan peut entrer en éruption et la lave couler de l'autre côté. Ça peut passer devant la maison. Ça peut rentrer en éruption dans 200 ans. Nous, on sera plus là. Donc, non, j'ose croire qu'on sera plus là pour voir la prochaine éruption.
Et au quotidien, comment ça se passe pour la gestion de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation? Parce que vous avez des clients ici, vous avez combien? 9 chambres? Il faut nourrir tout ce petit monde.
Alors, pour l'énergie, on est indépendant, on a acheté des panneaux solaires. puisqu'on n'est pas relié à l'énergie de la ville, ça ne monte pas jusqu'ici. Donc il faut, nous on a la chance d'avoir investi, mais j'ai encore des personnes autour de moi qui ont des bougies chez elles. L'eau par contre c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas d'eau dans la caldeira, le gouvernement a fait des travaux pour des travaux de recherche pour une source, ils ont trouvé une source dans la caldeira, mais nous en tant que pension c'est assez compliqué, on ne peut pas tous les jours s'alimenter à cette source, c'est d'abord pour les locaux et les animaux. Donc il faut qu'on aille en dehors de la caldeira. On a une petite camionnette avec deux cuves d'un mètre cube chacune. Et tous les deux jours, on va chercher de l'eau au premier village, mais ça nous prend les trois quarts de la journée.
Et c'est cher.
Alors quand il pleut, on vit de la saison des pluies, on récupère l'eau. Et là, depuis janvier, on commence à aller chercher un petit peu à droite à gauche de l'eau.
Et pour l'alimentation ?
L'alimentation, ça, c'est assez compliqué. Alors, c'est pas compliqué si on est organisé. Il faut anticiper. Donc, de temps en temps, on va en ville chercher, faire des courses. Ou alors, très régulièrement, je donne une liste au chauffeur du collectivo, il me fait mes courses. Heureusement, il y a encore cette solidarité, parce que moi, je pourrais pas descendre en ville tous les jours. Donc, tous les jours, Socorro part avec une liste. Et il revient avec des produits frais. Et de temps en temps, quand on peut, on descend avec notre petite camionnette. Et puis ça fait du bien d'aller à la ville, de temps en temps.
Donc vous êtes parfaitement adaptée à cet environnement particulier.
Alors oui, je me suis adaptée en quelque sorte, mais on fait avec. Mais c'est quand même... On est libre. Il y a une liberté dans la caldeira, mais qui a un prix qui se paie cher.
C'est quoi le prix à payer ?
Eh bien, je pense ce prix à payer, c'est justement d'avoir ses limites. On ne peut pas tout avoir. On est bien, la vie est agréable, il fait beau toute l'année. On reçoit du monde, on a une pension qui marche bien. À petite échelle, on n'a que 9 chambres, donc ça permet d'avoir une relation très conviviale avec les personnes. Et puis, à côté de ça, on est dans un endroit qui est très fermé, il ne se passe pas grand-chose.
Et donc, vous vous projetez ici pour de nombreuses années ?
Non. Alors, je vis, je me laisse porter par la vie. Après, je ne sais pas de quoi demain est fait. En France, il y a eu ce tournant qui m'a amenée ici. Après, il y a d'autres occasions qui arrivent dans la vie. Hein. Donc, je ne me projette pas. Pour le moment, je suis bien. Et puis, je me laisse porter par cette vie du no stress qui est assez sympa.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Majestoso na chama da caldeira, alto e orgulhoso do boi mês cratera. Semente nos povo que tá reza sempre. Pra abundância de nos vinho, Virgem Maria protege o povo.
Des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent, l'émission environnement de RFI. Savez-vous que depuis 2010, avoir accès à de l'eau potable est un droit ? Et oui, les Nations Unies ont adopté une résolution reconnaissant que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Cette résolution demande aux États de créer les conditions d'un accès universel à l'eau et à l'assainissement sans discrimination et en donnant la priorité aux plus démunis, blablabla. Car dans les faits, nous en sommes loin. 40% de la population mondiale n'a toujours pas accès à une eau de qualité. Une inégalité que souligne le dernier rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau que vous avez coordonné. Richard Connor, bonjour.
Bonjour.
Et cette année, le thème est « Ne laissez personne pour compte » parce qu'il est urgent de remobiliser les gouvernements sur ce sujet.
Nous avons encore beaucoup de travail à faire, oui. Mais il y a des améliorations dans la dernière décennie, mais le niveau d'amélioration n'est pas assez élevé pour arriver aux objectifs du cadre du programme de développement durable à l'horizon de 2030.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces objectifs et où nous en sommes aujourd'hui?
Les objectifs de base principales sont d'abord accès à une eau sûre, abordable et disponible pour tous, pour absolument tous les gens, toutes les personnes, et un accès à un système d'assainissement, des services d'assainissement également sûrs et abordables et disponibles pour toutes les personnes sur la planète. Et en ce moment, il n'y a seulement que 4 personnes sur 10 qui ont accès à l'assainissement sûr et sûr. Et puis, seulement 7 personnes sur 10 ont accès à de l'eau potable sûre et sûre.
Alors, c'est vrai qu'il y a, comme vous le disiez, à peu près 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable chez elles. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui vont être de plus en plus tendues en fonction de la croissance démographique et du changement climatique qui forme un cocktail complexe pour l'accès à l'eau.
Oui, plus particulièrement dans certaines régions. Et c'est pas autant une question de pénurie d'eau, même qu'il y a des sécheresses récurrentes dans certaines régions. Et fort probablement, ces situations vont aller de pire en pire avec les changements climatiques. Mais le problème fondamental, c'en est une de gestion de l'eau et de manque d'infrastructures. Et non autant le manque de la ressource comme telle.
Oui, alors ça, vous le soulignez dans le rapport, notamment, c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, 80% des personnes qui utilisent une eau impropre à la consommation vivent en milieu rural. Et vous rappelez que les exploitations agricoles à l'échelle du monde, c'est pour plus de 80% moins de 2 hectares. Et ces exploitations agricoles, la plupart du temps, n'ont pas du tout d'infrastructure d'irrigation. Elles dépendent donc pour l'essentiel de l'eau de pluie.
Exactement. Puis, c'est pas une quantité énorme d'eau qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de d'abord l'infrastructure pour stocker l'eau, mais ça prend un volume, disons, respectable pour pouvoir avoir de l'irrigation supplémentaire lors de la semence. Et puis, s'il y a quelques semaines de sécheresse ou de chaleur intense, juste un peu d'eau pour maintenir l'humidité du sol va permettre d'assurer la croissance des récoltes. Et puis, les études démontrent que cet accès à cette eau pour l'irrigation supplémentaire peut faire accroître la productivité, la quantité de la récolte par un facteur de 2 et même de 3.
Alors, pourquoi est-ce que l'irrigation n'est pas plus développée? Parce que ça ne coûte pas forcément si cher, surtout pour des surfaces de 2 hectares. C'est quoi? C'est un manque de connaissances pour faciliter cette irrigation?
Oui, d'abord, c'est un manque de connaissances, mais il y a aussi un manque d'accès à l'eau. Donc, l'eau doit être stockée. Elle doit se trouver à quelque part et être disponible lorsqu'on a vraiment de besoin. Et c'est ces systèmes de stockage qui font défaut. Mais ils peuvent être stockés, par exemple, dans des bassins, élargir un ruisseau un peu, et avec un mini barrage. On ne parle pas de barrage grandiose, on parle d'un mini barrage dans un ruisseau. Et en même temps, ce barrage dans le ruisseau peut permettre d'alimenter la nappe phréatique, et donc avoir de l'eau souterraine, mais de l'eau souterraine très proche de la surface. Donc, facilement accessible. Et puis, l'avantage d'avoir de l'eau stockée sous la surface, c'est qu'elle ne s'évapore pas. Et les sédiments permettent d'améliorer un peu la qualité de l'eau. Et puis, il y a d'autres façons, donc, lors de la saison des pluies, d'accumuler l'eau de pluie en utilisant soit les toits. Et puis, ça prend des bidons, des grands réceptacles en plastique, en PVC. Et puis, mais ça prend une certaine connaissance de pouvoir gérer le système, parce qu'il faut que le système soit couvert pour pas qu'il y ait de moustiques porteurs de vecteurs, comme la malaria, etc. Donc, c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a quand même un peu d'éducation à faire
Alors ça, c'est pour la situation en milieu rural, mais en milieu urbain, évidemment, c'est un peu différent. Alors vous expliquez dans le rapport qu'il y a des personnes qui sont dans des situations très complexes en zone périurbaine, parce qu'elles n'ont pas accès à la ressource comme en zone rurale, et elles sont trop loin des centres-villes pour avoir accès finalement aux infrastructures collectives d'accès à l'eau.
Il y a d'abord, c'est vrai, une question de distance, mais il y a aussi une question de reconnaissance. C'est-à-dire, les gens dans les régions périurbaines, les bidonvilles, souvent ne payent pas de taxes ou d'impôts et leur loyer est payé de façon informelle, qui fait en sorte qu'ils ne sont pas reconnus dans les recensements. Et puis, il y a aussi une, malheureusement, de la part des autorités municipales, dans certains cas, un aveuglement volontaire.
C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire que les gens ne sont pas dans les recensements, ne font pas partie des statistiques officielles. Et donc, ça permet aux autorités de les ignorer lors de l'élaboration de plans de services, de systèmes en eau et en assainissement.
Et donc, du coup, ça fait que ces personnes n'ont pas accès à des services d'accès à l'eau potable ou à l'assainissement, alors que dans toutes les grandes villes du monde, les zones périurbaines ne cessent de grandir, notamment à cause de l'exode rural.
Exactement. Ça crée une situation extrêmement difficile, et particulièrement en Afrique subsaharienne. C'est parce que c'est en Afrique subsaharienne qu'il y a la plus grande croissance de ces zones périurbaines.
Un paradoxe que vous soulignez aussi dans votre rapport, qui est le fait que les plus riches bénéficient d'un service de qualité à faible coût aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire majoritairement dans les pays développés, alors que les plus pauvres doivent payer très cher une eau souvent de mauvaise qualité.
Oui, c'est vrai. Les gens qui n'ont pas de connexion au réseau vont payer 10 à 20 fois le coût pour le même volume d'eau que les habitations qui ont une connexion au système. Les gens qui n'ont pas accès doivent acheter leur eau dans des camions-citernes ou d'autres vendeurs d'eau, des kiosques. Ils vont payer énormément, parfois jusqu'à 30 % de leur salaire, pour une eau qui est de moindre qualité et qu'ils doivent prendre le temps de transporter, etc., de traiter, souvent de bouillir. Et donc, on rajoute le coût de l'énergie nécessaire pour bouillir de l'eau, pour la rendre potable, etc.
Merci beaucoup, Richard Connor, pour cet échange. Je rappelle que le titre du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau que vous avez coordonné, « Ne laissez personne pour compte », est disponible, bien entendu, sur Internet, sur le site de l'UNESCO. Et un chiffre pour terminer, près de 4 milliards de personnes, c'est-à-dire près des deux tiers de la population mondiale, ont été confrontées à de graves pénuries d'eau pendant au moins un mois au cours de l'année. Merci Richard O'Connor.
Merci à vous tous.
À François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous réécouter en podcast grâce à l'application Pure Radio ou sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag CPDV tout simplement. Vous découvrirez des bonus et vous pourrez échanger avec nous, alors n'hésitez pas. Prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.